Bonjour, vous écoutez l'Amérique dans tous ses états, un balado hebdomadaire consacré à l'actualité des États-Unis avec Daniel Hoffman et Richard Etu. Bonjour Richard, comment ça va?
Bonjour Daniel, ça va très bien toi?
Bah super, super, il fait chaud à New York mais les températures se sont rafraîchies donc voilà, on supporte la chaleur hein, grâce à la climatisation notamment.
Voilà.
Alors cette semaine, on va vous proposer un épisode un peu spécial consacré à l'audition de Robert Mueller devant la Chambre des représentants, devant deux commissions de la Chambre des représentants. C'est un sujet dont on a déjà parlé pas mal dans ce balado et puis pensez que ça valait le coup d'en refaire donc un épisode à part entière. On va donc évoquer cet événement extrêmement suivi la semaine dernière à Capitol Hill, cette audition, revenir dans le détail sur le témoignage que Robert Mueller a livré aux élus républicains et démocrates, et puis évidemment sur les réactions que ça a suscité. L'Amérique dans tous ses états, c'est donc l'épisode 24, et c'est parti. Alors tous les yeux et toutes les caméras étaient tournés la semaine dernière donc vers ces deux commissions de la Chambre des représentants, la commission judiciaire et la commission du renseignement, qui ont donc auditionné Robert Mueller, l'ex-procureur de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016, qui a livré ce fameux rapport de près de 450 pages sur donc, le rôle qu'a joué la Russie pendant cette élection et sur la possible entente entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. Alors on va revenir évidemment dans le détail sur ce qui s'est dit, sur les questions qui ont été posées, les réponses fournies par Robert Mueller. Avant ça, Richard, puisque ça fait un certain temps qu'on n'a pas parlé de cette affaire dans ce balado, je voudrais qu'on fasse un peu la genèse des événements qui ont suivi la remise du rapport de Robert Mueller et qui ont conduit à son audition devant le Congrès. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce qui s'est passé entre la remise de ce rapport et l'audition de mercredi dernier?
Bah, une date qu'on doit retenir, c'est celle du 29 mai 2019, lorsque Robert Mueller, pour la première fois, fait une déclaration publique concernant son rapport. Hein. Ce qui avait été remarquable, c'est que pendant les deux années où il avait enquêté, jamais il n'avait pris la parole en public. Et une des choses qu'il avait dites, c'est « Vous pouvez m'inviter à témoigner devant le Congrès, mais je ne veux pas y aller, et si vous m'y forcez, je m'y rendrai, mais je n'ajouterai pas un mot qui ne se trouve pas déjà dans le rapport que j'ai présenté. »
Et alors, qu'est-ce qui a fait finalement qu'il a changé de position, ou comment on l'a plutôt fait changer de position?
Bon, il y a eu des négociations qui ont été assez longues entre les gens du Congrès, les démocrates de la Chambre des représentants et l'équipe de Mueller. Et éventuellement, il y a eu une assignation à comparaître. Et donc là, ça devient sérieux. On a continué à négocier. Pendant ce temps-là, la Chambre des représentants multipliait aussi les assignations à comparaître ou des assignations pour obtenir des documents auprès des gens de l'entourage de Donald Trump. Mais ce qu'on remarquait, c'était un refus complet de collaborer aux enquêtes de la Chambre des représentants. Et donc, on se retrouvait devant un blocage. Et finalement, Mueller a accepté volontairement, hein, sans être forcé par un jugement d'une cour, lui demandant d'obéir à l'assignation de comparaître. Et il y a eu donc des mois et des mois et des mois, et voilà cette comparution ou cette audition que certains médias comparaient à une sorte de Super Bowl politique.
Alors justement, Super Bowl politique, hein, l'événement sportif le plus suivi aux États-Unis, voire peut-être au monde. Et effectivement, il y a énormément d'attention qui était portée sur cet événement. On va s'intéresser d'abord à la stratégie des démocrates, puisque c'était eux qui voulaient évidemment le plus entendre Robert Mueller. Comment ils s'y sont pris pour interroger Robert Mueller? Quelle a été finalement leur tactique?
Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'ils souhaitaient que Robert Mueller insuffle un peu de vie dans un rapport assez complexe, touffu et rempli de jargon juridique ou judiciaire. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait comme un moment presque cinématographique qui permette aux gens de réaliser l'ampleur des accusations qui sont portées ou des soupçons qui sont qui pèsent sur sur Donald Trump et les questions dès le départ ont cherché à établir que un dans le rapport Robert Mueller n'avait pas disculpé complètement Donald Trump contrairement à ce que Donald Trump lui-même répète sans cesse et ça a été établi très rapidement par le président de la commission judiciaire qui posait des questions très simples. Est-ce que, dans votre rapport, vous disculpez Donald Trump? Non. Est-ce que, comme Trump, c'est pas exactement la formulation, mais est-ce que, comme Trump le dit, il n'y a pas de preuve d'entrave à la justice dans votre rapport? Mueller dit non. Donc, tout de suite, on établit qu'il y avait matière à porter des accusations sérieuses contre Trump pour le délit d'entrave à la justice. Et la question ensuite était de dire, mais pourquoi vous n'avez pas porté vous-même ces accusations-là?
Et alors la réponse à cette question,
On a posé cette question-là de diverses façons, de multiples façons du côté des démocrates, et toujours Robert Mueller a refusé d'y répondre. Cependant, il y a eu un échange intéressant entre un représentant californien, un démocrate, qui lui a demandé « La raison pour laquelle vous avez refusé d'incriminer Donald Trump, est-ce que ce n'est pas l'avis, en raison de l'avis du département de la justice, selon laquelle on ne peut pas inculper un président en exercice? » À cette question très importante, dans un premier temps, il a dit oui, Mueller.
Dans un premier temps, sauf que quelques minutes plus tard, il a un peu changé de bord.
En fait, pas quelques minutes plus tard, c'est que bon, il y a eu toute cette première partie qui était devant la commission judiciaire, et par la suite, dans la deuxième partie de l'audition qui était devant la commission du renseignement, il a modifié son témoignage. Et finalement, c'était le seul élément qui sortait de son texte, finalement. Et on a vu sur Twitter les démocrates et ceux qui sont en faveur de la procédure de destitution contre Donald Trump se réjouir en disant « il l'a dit ». Et bon, tout de suite, il y a des gens qui ont tempéré en disant « mais est-ce qu'il a vraiment voulu dire ça ?» Et il s'est ravisé, il a nuancé, si bien que l'élément qui sortait du texte a été écarté et on s'est retrouvé à la fin de cette audition-là, du côté des démocrates, avec la confirmation de ce qu'on savait déjà, mais sans plus.
Est-ce qu'un des problèmes aussi qui s'est posé pour les démocrates, c'est le fait que Robert Mueller lui-même n'était pas nécessairement le personnage le plus charismatique ou le meilleur orateur qui soit et que ça ne leur a pas forcément donné les munitions pour arriver à ce moment un peu que tu évoquais, qui permettrait justement de faire la lumière sur les enquêtes concernant Trump?
On souhaitait qu'il clarifie des choses, qu'il soit un personnage fort, qui convainque les gens. Or, il est arrivé, l'air confus souvent, s'exprimant d'une voix parfois tremblante, avec des réponses très laconiques, ou en refusant d'articuler lui-même ce qu'on voulait lui faire entendre, lui faire dire plutôt, en disant « je vous réfère à mon rapport ». Cette expression-là, « je vous réfère à mon rapport », il l'a dite une trentaine de fois. Il a aussi souvent dit « pouvez-vous répéter la question ?» Et ce n'est pas une mauvaise approche, parce que souvent les questions étaient assez complexes et on veut donner les réponses exactes, mais lorsque on met ces hésitations, ces réponses un peu imprécises et qu'on ajoute ces questions-là, ça donne l'impression de quelqu'un qui n'est pas dans le coup et qui faisait ce matin-là plus que ses 74 ans. Alors qu'on l'avait dépeint comme quelqu'un qui était un top-notch au niveau du système juridique. C'était Robert Mueller, le procureur avec beaucoup d'expérience, l'ancien directeur du FBI. Et là, on se retrouve devant quelqu'un qui, c'est presque difficile à le dire, mais qui en a perdu et on se demande s'il a toutes ses facultés. Mm-hmm. C'est là où, malgré le fait qu'il a confirmé des soupçons ou des accusations graves à l'encontre de Donald Trump, ça a été enrobé d'une performance qui était étonnante et, pour les démocrates, décevante. Et ce qu'on a vu et ce qu'on a reproché à plusieurs journalistes, c'est de se comporter un peu comme des critiques de théâtre.
Mm-hmm.
Hein? C'est comme si la substance ou l'essence de ce qu'on disait, qui est importante en soi, devenait secondaire et que la performance médiocre de Robert Mueller devenait l'histoire. Et évidemment, pour les démocrates, c'est pas ce qu'ils souhaitaient.
Bah, on peut aussi attribuer ça d'une certaine manière, certains diront, à une sorte de dictature de Twitter où il faut avoir la vidéo, le moment clé qui permet de faire la lumière un peu sur tout. C'est aussi peut-être ça le problème. On a parlé donc de la stratégie des démocrates. Je voudrais qu'on s'attarde maintenant sur les républicains, évidemment, puisque eux aussi ont beaucoup questionné Robert Mueller. Pour eux, l'objectif, et tu me corrigeras si je me trompe, c'était avant tout de préserver le statu quo qui avait été acquis depuis la publication du rapport, puisqu'ils avaient un peu réussi quand même à imposer cette idée, pas forcément vraie, on l'a bien vu, que Donald Trump avait été complètement disculpé. Est-ce qu'ils ont réussi à préserver ce fameux statu quo ?
Ils ont réussi leur mission assez brillamment, malgré le fait qu'on peut critiquer les moyens qu'ils ont utilisés. Et quand on parle d'une performance là, difficile de la part de Robert Mueller, c'est entre autres à cause des questions des républicains. C'était des questions qui étaient formulées de façon agressive. On a remarqué souvent, en fait, que les représentants républicains criaient, alors qu'ils auraient pu s'exprimer de façon normale. Mais c'était très agressif et c'était des attaques. Mm-hmm. Et ce n'était pas une recherche des faits, ce n'était pas une recherche pour clarifier des faits, c'était des attaques pour, un, déstabiliser évidemment le témoin, mais aussi mettre en doute sa crédibilité, l'intégrité des membres de son équipe, mais aussi mettre en cause les origines de cette enquête russe-là. Mm-hmm. Tout ce qui s'est passé à partir du moment où le FBI s'est demandé s'il n'y avait pas cette entente entre le camp Trump et la Russie, tout ce qui s'est passé par la suite, hein, tous les contacts qu'il y a eu, tous les signaux qu'on pouvait interpréter de diverses façons, ça ne les intéressait aucunement. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment, à l'origine, l'enquête avait peut-être été viciée et comment Mueller s'est entouré de personnages qui étaient partisans parce qu'un avait déjà assisté à une soirée avec Hillary Clinton, un autre avait donné de l'argent à une campagne démocrate, etc., etc. Et ce qu'on a vu, c'est que face à ce barrage-là, Mueller ne se défendait pas. Une des raisons pour laquelle il ne pouvait pas se défendre, c'est que les républicains utilisaient leurs 5 minutes pour faire des discours, pour l'attaquer, et quand ils avaient terminé leur discours, ben, on passait aux démocrates. Et le président de la commission, plutôt que de dire « Monsieur Mueller, je vais vous donner une minute pour que vous répondiez à cette attaque-là », il passait tout de suite aux démocrates, si bien qu'il avait l'air de quelqu'un qui ne voulait pas se défendre, qui avait de la difficulté, un, à répondre aux questions, parce qu'on le questionnait sur des passages précis de son rapport. Et là, il disait « Bon... quelle page déjà? Oui. Ben, si vous le dites, si c'est écrit, j'accepte mon rapport. » Mais il n'était pas capable lui-même de défendre ce qu'il disait dans son rapport de façon convaincante.
Donc on voit effectivement une stratégie des républicains qui semble avoir porté ses fruits, en tout cas par rapport au but qu'il recherchait. Il y en a un des républicains qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui a été le premier à jubiler pendant, mais surtout après ces auditions, c'est évidemment Donald Trump qui a parlé, hein, je crois, de désastre pour les démocrates. Est-ce que tu dirais, toi, qu'il en sort renforcé de cet épisode?
À court terme, certainement, parce que tout de suite, on a dit, et on le dit ici, que cette performance-là n'avait pas nécessairement fait avancer la cause démocrate. Elle avait donc préservé le statu quo que souhaitaient les républicains. Et pire encore, pour les démocrates, elle brisait un peu le mythe de Robert Mueller. Mm-hmm. Et on le voyait fragilisé et tout. Pour Donald Trump, tout ça, c'était positif. Quelle que soit la vérité, en fait, il aurait de toute façon tenté de transformer ce qui s'est passé à son avantage. Mais lorsqu'il a dit c'est une catastrophe pour les démocrates, ben, il empruntait des termes qui avaient justement été mentionnés par divers commentateurs durant la journée, sur Twitter notamment ou à la télévision, mais pas seulement des républicains, mais également des démocrates. Il a nommément fait allusion à Lawrence Tribe, mm-hmm. Le professeur de droit de l'université Harvard, qui a dit que le témoignage, mm-hmm. ou au moins la première partie du témoignage de Trump, de Mueller, avait été une catastrophe. Alors, mm-hmm. évidemment, Trump saute sur ce genre de terme-là, dit que c'est une victoire pour le Parti républicain, une défaite pour le Parti démocrate et que ça va avoir des répercussions pour 2020. Il est, malgré le ton qu'il emploie, c'est-à-dire malgré les mots qu'il emploie, il est en colère mm-hmm. face à un journaliste ou une journaliste qui lui dit « Oui, mais le procureur, l'ancien procureur spécial a dit que vous avez menti dans vos réponses écrites ». Et là, il est fâché, il dit « Non, c'est vous qui mentez, il n'a pas dit ça, ce sont des non-vérités, tout ce que vous faites de toute façon, c'est évidemment fake news ». Mais on voyait, et c'est souvent le cas, que même dans les moments de, entre guillemets, triomphe, mm-hmm. Donald Trump est souvent en colère.
Oui. Tu as parlé des répercussions que ça pourrait avoir pour la présidentielle de 2020, donc de l'année prochaine. Il en a parlé, Robert Mueller, de 2020. Et moi, ça m'a marqué parce qu'on a eu l'impression que lorsqu'il évoquait le risque d'ingérence russe dans la prochaine élection présidentielle, c'était là où il était le plus convaincu, où tout d'un coup, le personnage fragile qu'on avait vu avait disparu. Et il s'est tout d'un coup animé d'une sorte d'esprit qui lui avait peut-être manqué pendant le reste de l'audition. Est-ce que toi aussi, ça t'a vraiment frappé, cette animation qui a été celle de Robert Mueller pendant ce moment-là?
Oui. Donc ça, c'était la partie de son audition devant la commission du renseignement qui s'intéressait à toute la question de la collusion, de l'ingérence russe, alors que la commission judiciaire s'était intéressée à la question de l'entrave à la justice. Et dans cette deuxième partie-là, on a vu un Robert Mueller beaucoup plus en maîtrise de son rapport et de ce qu'il avait lui-même écrit, et beaucoup plus énergique mm-hmm. dans ses réponses. Et moi, ça m'a fait penser à une chose, parce que j'ai déjà écrit des livres avec quelqu'un d'autre, c'est que lorsqu'on écrit, on se sépare évidemment les tâches, et même si on est conscient du contenu de ce que notre collègue a écrit, on n'est pas aussi à l'aise d'en parler mm-hmm. que lui. Et j'ai eu l'impression que Robert Mueller, il a été nommé pour faire enquête sur l'ingérence russe. Mm-hmm. Et toute cette partie de son enquête contre-espionnage, c'était ça qui l'intéressait. Mm-hmm. Et c'était ça, probablement, dans lequel il a mis le plus de son, de sa propre énergie, alors qu'il a possiblement ou probablement confié à d'autres toutes les questions d'entrave à la justice qui sont, de toute façon, survenues par la suite. Mm-hmm. Et donc, il y a eu des échanges intéressants dans lesquels il a notamment dit, au moment où on se parle, au moment où on est assis ici, les Russes déjà essaient de manipuler la démocratie américaine et ils vont continuer à le faire jusqu'en 2020 et ce n'est pas le seul pays qui va le faire. Et il a parlé de cette situation-là comme une situation qui devait préoccuper tous les Américains.
Mmh. Je te pose une dernière question, Richard. Il y a toujours cette fameuse question de la procédure de destitution contre Donald Trump. dont on parle hein, beaucoup, que certains démocrates ont agité depuis plusieurs mois. Est-ce que, selon toi, cette procédure a encore une chance de voir le jour où cette audition en a définitivement signé l'arrêt de mort?
Mais on serait enclin à penser que c'est fini, hein, après cet échec entre guillemets, sauf qu'on réalise que les démocrates n'ont pas encore dit leur dernier mot. On est lundi aujourd'hui. Vendredi, le président de la commission judiciaire de la Chambre a demandé à un juge, en évoquant l'impeachment, d'obtenir des documents, les documents secrets de l'enquête, y compris les témoignages devant le grand jury, en disant « Nous avons besoin de ces documents-là parce qu'ils pourraient nous servir dans une procédure de destitution. » Et il met en contexte sa démarche dans le fait, en rappelant que le ministère de la Justice ne permet pas d'inculper un président, mais l'article 1 de la Constitution donne au Congrès le pouvoir de lancer une procédure de destitution. Et c'est dans ce contexte-là qu'il demande au juge de lui rendre ces documents-là qui pourraient aider les démocrates à présenter ou à accumuler des preuves. Et il va adopter la même approche aujourd'hui même, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais pour forcer l'ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche, Donald Meghan, à comparaître devant le Congrès. Ce qu'il a dit, Gerald Nadler, le président de la commission judiciaire de la Chambre, c'est que dans les faits, nous avons déjà lancé une procédure de destitution. Ce que ça occasionne comme changement, finalement, c'est que ça permet ou ça renforce la position du Congrès face à la justice pour obtenir soit des documents ou forcer des gens à comparaître. Parce que quand c'est fait, quand les demandes sont faites en dehors d'une procédure de destitution, il est plus facile pour la Maison-Blanche de contester en justice. Mais lorsque c'est fait dans le cadre même informel d'une procédure de destitution, ça change la donne. Et c'est là où on en est. Les dirigeants démocrates de la Chambre continuent à dire « Nous ne sommes pas prêts parce que la population est pas derrière nous. » Parce qu'aussi, on n'a même pas une majorité au sein de notre groupe. Est-ce que les démocrates vont tenir un vote un jour pour l'impeachment de Donald Trump? Ça demeure peu probable. Mais ça ne veut pas dire que dans les prochains mois, après le retour de la pause estivale du Congrès, ça c'est tout le mois d'août, ça ne veut pas dire qu'en septembre ou en octobre, il n'y aura pas une surchauffe ou sur le plan de l'impeachment.
Donc c'est vrai que c'est une possibilité qui reste ouverte, même si c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup chez les démocrates de représentants qui disent que la meilleure façon de battre Donald Trump, c'est par les urnes et donc lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Voilà, on arrive déjà au terme de cet épisode spécial. On espère qu'il vous aura plu. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine.